Amen. Voilà, je vous invite à faire une lecture dans l'évangile de Luc, au chapitre 9. Luc, chapitre 9, et nous lirons à partir du verset 28, texte bien connu, Luc 9, 28. Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea, et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici deux hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil. Mais, s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Comme il parlait ainsi, une nuée vint les couvrir, et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit, « Celui-ci est mon fils élu. Écoutez-le. » Quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. Les disciples gardèrent le silence, et ils ne racontèrent rien à personne, en ce temps-là, de ceux qu'ils avaient vus. Amen. Voilà, ces disciples vont faire une expérience extraordinaire. Ces disciples vont, avec Jésus, conduits par Jésus, vont voir et entendre des choses ineffables. Nous y reviendrons. Il nous est dit dans le texte, environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles. Alors, quelles paroles Jésus a prononcées? Quand nous allons un petit peu plus haut, nous voyons de quoi Jésus a parlé. Il a parlé, bien sûr, de la croix, de ses souffrances, de ce qu'il devait affronter à Jérusalem. Il devait mourir. Et comme conséquence, il va aussi parler de la croix que chaque disciple devait porter. Il le dit juste un petit peu plus haut. « Si quelqu'un veut venir après moi, verset 23, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Voilà de quoi Jésus parlait. Et la croix a un lien direct avec la gloire. Et parce qu'il y a eu la croix, eh bien Jésus a été élevé au-dessus, le nom de Jésus au-dessus de tous les noms, dans Philippiens chapitre 2, verset 8. En parlant de Jésus, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Le trône, la couronne, après la croix. Et l'apôtre Paul a été celui qui a marché dans les traces de Jésus. L'apôtre Paul qui a affronté, tout affronté, pour la gloire du Seigneur Jésus. Il a souffert de toutes les manières, et dans 2 Timothée chapitre 4, nous connaissons bien ce texte, au verset 6, « Car pour moi, je sers déjà de libation, ma vie, elle est répandue, et le moment de mon départ approche, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, et j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice mais réservé non pas seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Il a souffert, il s'est chargé de sa croix chaque jour, et maintenant, eh bien, il dit, eh bien, la couronne de justice m'est réservée. La souffrance, l'adversité, la persécution font partie de la croix que nous devons porter chaque jour dans nos vies pour le nom de Jésus. Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, il monta sur la montagne pour prier. Et pendant qu'il priait, il nous est dit que l'aspect de son visage changea pendant qu'il priait, pendant qu'il se tenait dans la présence de Dieu, pendant qu'il parlait avec Dieu. Et vous savez, le contact avec Dieu dans la parole, et ça nous est dit à plusieurs endroits, le contact avec Dieu, il marque, il y a quelque chose qui se passe quand un homme se tient devant Dieu. Et nous avons pour exemple Moïse dans l'Ancien Testament, qui passait du temps dans la tente d'assignation, il passait du temps avec Dieu, il se tenait devant Dieu, il parlait avec Dieu dans sa présence, et quand il sortait de sa présence, il avait le visage rayonnant, parce qu'il s'était tenu dans la présence du Seigneur. Dans la présence de Dieu, tout devient possible. Non pas à cause de ce que nous sommes, non pas à cause de ce que nous faisons, mais grâce à ce qu'il est. Il est tout puissant, omniscient, souverain. Il a toute autorité dans le ciel, mais aussi sur la terre. Les deux hommes s'entretenaient avec Jésus, Moïse et Élie. Nous l'avons déjà souligné, mais Moïse symbolise la loi et Élie les prophètes. Et la Bible nous dit qu'à un moment donné, Jésus est resté tout seul. Jésus qui a apporté, lui, la grâce et la vérité. Il a accompli parfaitement la loi et maintenant nous n'avons plus besoin de ces lois de l'Ancien parce qu'elles sont accomplies en Jésus. Jésus a tout accompli. Mais je voudrais aussi souligner le fait que les trois, Jésus, Élie et Moïse, étaient des hommes qui priaient, qui intercédaient. Et nous avons de nombreux exemples. Les trois ont dû à combattre toute leur vie, et les trois sont apparus dans la gloire. Ils s'entretenaient de quoi ? Ils s'entretenaient des choses d'en haut, ils s'entretenaient du plan de Dieu, ils s'entretenaient du dessein de Dieu. Le plan extraordinaire du Seigneur, un plan élevé, un dessein glorieux, et ils s'entretenaient de ça, ces trois hommes. Et ils parlaient du prochain départ de Jésus, de l'ascension, quand Jésus va monter au ciel, va remonter au ciel. Extraordinaire. Et nous, notre vie chrétienne, notre vie spirituelle dépend de la mort, de la résurrection, de l'ascension de Jésus. C'est son œuvre à lui. Son œuvre à lui, et notre vie en dépend pleinement. Jésus a accompli cela pour chacun d'entre nous. La grâce de Dieu nous rend possible l'œuvre de Dieu dans nos vies. Ce matin, peut-être quelqu'un se dit, mais moi je ne suis pas digne, je ne peux pas, j'ai tellement de difficultés. Le Seigneur te dit que ce n'est pas à cause de ce que tu es, de ce que tu traverses, mais c'est grâce à l'œuvre de Jésus à la croix. Que l'œuvre de Dieu est rendue possible dans notre vie, malgré nos faiblesses, nos limites, nos manquements, c'est par la foi dans l'œuvre de Jésus que l'œuvre de Dieu s'accomplit en nous. D'ailleurs, Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil. Et nous voyons là, bien sûr, les limites humaines, nous voyons là les limites des hommes. Ils étaient appesantis par le sommeil. Mais, s'étant tenus éveillés, ils ont vu la gloire de Dieu, s'étant tenu éveillé. Ce moment-là était un moment particulier. Et c'est parce que c'était un moment particulier qu'ils ont pu se tenir éveillés. Vous vous rendez compte, dans le jardin de Gethsémané, ils n'ont pas pu veiller, se tenir avec Jésus une heure. Pourtant, c'était important aussi dans le jardin de Gethsémané. Mais là, ils vont être marqués par la gloire. Il va y avoir quelque chose qui les a tellement impressionnés qu'ils vont lutter contre le sommeil parce que ce qu'ils voient et ce qu'ils entendent, c'est tellement glorieux qu'ils ne peuvent pas dormir à ce moment-là. Il y a la gloire de Dieu qui se manifeste devant ces hommes. S'étant tenus éveillés, ils ont vu la gloire de Dieu. Nous y reviendrons sur la gloire de Dieu. Mais regardez comment, dans ces moments, ils se sont oubliés eux-mêmes. Dans ces moments où Dieu intervient, Dieu se manifeste, où l'Esprit de Dieu se manifeste avec puissance. Dans ces moments-là, ils s'oublient eux-mêmes. Et Pierre, bien sûr, il ne savait pas ce qu'il disait, mais il dit « Dressons trois tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » Même pas pour eux, tout pour vous. Ils avaient tellement ce spectacle glorieux devant les yeux. Tout pour la gloire de Dieu. Ils se sont oubliés eux-mêmes. Mais pour lui, c'était bon d'être sur cette montagne. C'était bon de se tenir dans la présence de Jésus, au contact de la parole. Ils avaient des difficultés et des problèmes, bien sûr, que, comme chacun d'entre nous, mais dans la présence de Jésus, ils ont dit « c'est bon d'être ici ». Je crois que c'est dans la présence du Seigneur que nous pouvons trouver des ressources, que nous pouvons trouver le pardon, que nous pouvons trouver l'encouragement, que nous pouvons trouver la consolation. C'est dans la présence du Seigneur Jésus et nulle part ailleurs que nous pouvons trouver ces choses qui nous viennent directement de Dieu dans notre cœur. Et nous avons les promesses de la parole de Dieu qui nous dit que, eh bien, il ne nous abandonnera jamais. Que son nom soit loué, exalté. Il est bon pour nous que nous soyons ici, au contact de cette parole. Plus que toute autre part, il est bon que nous soyons ici, que nous puissions faire de ces moments particuliers où nous nous tenons devant Dieu, peut-être seuls chez nous, que nous puissions faire de ces moments des moments de qualité, des moments où nous réalisons vraiment que Dieu est présent, des moments où nous réalisons que seul lui peut intervenir dans notre vie, des moments tellement glorieux que quand nous voyons notre misère et la misère humaine, eh bien, la gloire de Dieu nous permet, eh bien, de nous transcender au-dessus de toutes ces choses qui nous accaparent et qui nous font tellement de mal. Ils ont vu ce que personne n'a vu. Ils ont entendu des choses ineffables. Quand Jésus parle, c'est pas banal. Quand Dieu parle, c'est pas banal. La parole de Dieu, c'est pas banal. C'est Dieu qui nous parle, il nous a fait des promesses. Et ces promesses sont oui et amen. La Bible dit que tout disparaîtra. Tout, le ciel et la terre passeront, mais ma parole, dit Dieu, ne passera point. Ne passera point. Seigneur, que nous puissions bâtir eh bien, nos vies sur la parole, que nous puissions nous accrocher aux promesses de Dieu, qui sont oui, amen, et qui ne disparaîtront jamais. Au verset 36, il est dit que ils gardèrent le silence et ils ne racontèrent rien à personne en ce temps-là de ce qu'ils avaient vu. Ils ont été tellement marqués, ils ont été tellement saisis par la gloire de Dieu, ils ont été tellement saisis par l'Esprit de Dieu, ils ont vu des choses ineffables et ils ne pouvaient même pas le raconter. Et cela nous fait penser à quelques expériences dans la parole où, par exemple, l'apôtre Paul a été saisi. Il est monté au troisième ciel, nous dit la parole. Il a entendu des choses ineffables qu'il n'est pas permis à un homme eh bien, de retranscrire. Il a entendu des choses ineffables. Eux, ils gardèrent le silence. Mais vous savez, cette expérience, et je crois que je l'ai déjà dit, cette expérience les a tellement, tellement marqués. Que 20 ans après, l'apôtre Pierre va le souligner dans une de ses lettres. 20 ans après environ, il le souligne. Et dans 2 Pierre 1,17, « Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique qui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, et nous avons entendu cette voix » venant du ciel, lorsque nous étions avec lui, avec Jésus, sur la sainte montagne. Cette montagne est devenue sainte, pourquoi ? Parce qu'il y a eu la présence du Seigneur. Cette montagne est devenue un endroit extraordinaire, un endroit inoubliable, parce qu'il y avait la présence du Seigneur. Que Dieu se manifeste au milieu de nous et dans nos vies. Sa présence est le bien le plus précieux que nous pouvons avoir. Ils ont vu quoi ? La gloire magnifique de Jésus. C'est ce qu'il y a de plus important pour Dieu, c'est de glorifier le Fils. et d'amener de nombreux fils à la gloire. Vous savez que ce que Dieu a prévu, alors quand on y pense, ça nous dépasse. Dieu a prévu pour chacun d'entre nous d'être amené à la ressemblance de Christ, à l'image de Christ. Ça nous dépasse, on voit tellement notre misère qu'on se dit, mais comment un jour je pourrais être semblable à Jésus? Ça nous dépasse, mais c'est l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre puissante, l'œuvre extraordinaire, malgré ce que nous sommes aujourd'hui, malgré nos misères, malgré ce que, eh bien, la parole de Dieu, elle est vraie. Ce que l'apôtre Paul dit dans l'Épître aux Romains vient de Dieu, inspiré par le Saint-Esprit, et c'est vrai qu'il amènera des fils à sa ressemblance. La gloire de Jésus, c'est ce que Dieu chérit le plus, c'est ce qui est le plus important, de glorifier le Fils. Dans Jean chapitre 17, verset 5, il est dit « Et maintenant toi, Père, c'est la prière sacerdotale de Jésus, et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi quand le monde était là, Seigneur, avant que le monde soit. Glorifie-moi de la gloire. » Cette gloire parcourt toute l'histoire du peuple de Dieu dans l'Ancien Testament jusque dans le Nouveau. Cette gloire va être manifestée tout au long. Et nous avons des épisodes de sommet et d'abîme. Nous avons des épisodes où la gloire de Dieu s'est manifestée de façon remarquable. Elle s'est manifestée, on le dit souvent, mais dans le tabernacle. Il y avait la nuée, il y avait la colonne de feu, mais également dans le buisson ardent, Moïse a vu quelque chose d'extraordinaire. Il a entendu la voix de Dieu et Dieu lui dit « Enlève tes sandales de tes pieds parce que ce lieu sur lequel tu es est saint. » Il y a eu d'autres manifestations de la gloire de Dieu tout au long de l'histoire du peuple de Dieu. Par exemple, quand Josué arrive devant Jéricho, il ne sait pas comment faire, c'est infranchissable. Eh bien, il y a là un moment la manifestation de la gloire. Il nous est dit que le chef de l'armée de l'Éternel arrive à ce moment-là, dans Josué au chapitre 5. Il arrive et il dit « J'arrive maintenant, au bon moment ». Et Josué se prosterne devant lui parce qu'il a compris que c'était une manifestation de la gloire de Dieu. Et nous avons tellement, dans Ézéchiel aussi, la gloire de Dieu s'est manifestée de différentes manières. Les hommes, quand la gloire de Dieu se manifeste, les hommes s'inclinent, se courbent. La crainte de Dieu s'empare des cœurs. Dans le Nouveau Testament aussi, on passe rapidement, mais dans le Nouveau Testament, quand il y a l'annonce de la naissance de Jésus, il nous est dit que le ciel s'est illuminé, il y a une chorale céleste qui chantait. Un petit peu plus loin aussi, quand au baptême de Jésus, le ciel s'est ouvert et le Saint-Esprit est descendu, la voix de Dieu s'est faite entendre, à la résurrection de Jésus, à l'ascension de Jésus, il y a eu la gloire de Dieu qui s'est manifestée. Mais cette gloire a été souvent cachée, elle a été souvent ternie tout au long de l'histoire du peuple de Dieu, que ce soit dans l'Ancien Testament, mais même dans le Nouveau, cette gloire, elle a été ternie. Elle a été retirée. Et nous avons un exemple dans l'Ancien Testament, dans 1 Samuel au chapitre 4, je ne lirai pas, je paraphrase du verset 19 au verset 22, quand l'arche de Dieu a été prise par les Philistins. L'arche de Dieu symbolisait justement la présence de Dieu, la parole de Dieu, le témoignage. Cette arche, c'était ce qui symbolisait cette présence de Dieu. Et il y avait la parole de Dieu dedans, dans l'arche. Et cette arche a été prise par les Philistins. Et pendant ce temps, eh bien, la belle-fille du sacrificateur Élie, qui était sur le point d'accoucher, va accoucher et elle donnera, juste avant de mourir, elle donnera le nom Ichabod à son fils. Quel nom difficile à porter. Ça signifie « La gloire est bannie d'Israël ». Waouh ! La gloire est bannie d'Israël, l'arche est partie, elle a été prise, et la gloire a disparu. La gloire. est bannie d'Israël, car l'arche de Dieu a été prise. Et il y a eu des périodes sombres tout le long de l'histoire aussi du peuple de Dieu. Il y a eu des périodes sombres où, eh bien, Dieu prive son peuple de sa gloire, Dieu prive son peuple de sa présence, de la manifestation de sa gloire. Dans le livre des Juges, où il nous est dit que chacun faisait ce qui lui semblait bon, eh bien, la gloire de Dieu avait été ternie, il y a eu des sommets et des abîmes. Mais chaque fois que le peuple s'est repenti, chaque fois que le peuple a humilié son cœur, chaque fois que le peuple est revenu à l'Éternel, eh bien Dieu s'est manifesté à nouveau, et à nouveau, il s'est manifesté avec puissance et avec force. Également dans du prophète Malachie, jusqu'à la naissance de Jean-Baptiste, il s'est écoulé 400 ans, et pendant ces 400 ans, il n'y a eu aucune parole de Dieu. C'est quand même une période qui nous perturbe, 400 ans sans une parole de Dieu. Du dernier prophète jusqu'au prophète du Nouveau Testament, Jean-Baptiste, 400 ans de silence, privé de la parole, privé de la gloire de Dieu, c'était des périodes sombres. Mais dans ces temps de la fin que nous vivons, parce que nous croyons que nous vivons des temps de la fin, on ne sait pas combien de temps ça va durer, ces temps de la fin, mais nous y sommes quand nous lisons les prophéties du Nouveau Testament, quand nous lisons la parole de Dieu, nous apercevons qu'il y a de nombreux signes qui sont là et d'autres qui sont à venir, mais ça peut venir rapidement. Ça peut venir rapidement. Et dans cette période, donc des derniers temps, eh bien, c'est une période où la gloire de Dieu est souvent ternie, non seulement dans notre Église, mais dans la chrétienté. Jésus dira de cette période, quand il va revenir, « Trouverai-je la foi quand je reviendrai ? Trouverai-je la foi ?» Alors vous savez que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, sans la foi. Période où Jésus est à la porte et il frappe inlassablement et il dit « Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Que Dieu nous fasse grâce, qu'il nous aide, que nous puissions porter les regards sur lui. Il est celui qui peut tout. Mais nous voulons nous humilier devant lui, nous voulons que nos cœurs soient déchirés, nos cœurs et pas nos vêtements. Mais c'est une période également où nous avons des promesses qui sont là comme encourageantes, qui sont là comme puissantes. Dans ces temps de la fin, il est dit que Dieu répandrait de son esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes. C'est des prophéties concernant aussi les derniers jours. Et nous sommes concernés. Donc en même temps, il y a une période sombre et en même temps, il y a des promesses encourageantes pour chacun d'entre nous. Et nous voulons crier à Dieu parce que l'Esprit de Dieu peut faire des choses extraordinaires que nous ne pouvons pas, mais nous voulons disposer nos cœurs à ce que l'Esprit vienne et se manifeste. Il veut à nouveau manifester sa gloire d'une manière surnaturelle. Venons devant lui dans la repentance, dans l'humiliation, cherchons-le de tout notre cœur. Et ce verset que j'ai cité ce matin, 2 Chroniques chapitre 7 et verset 14, « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. » Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Waouh, nous avons un Dieu extraordinaire, un Dieu en qui nous voulons nous confier, un Dieu qui est lent à la colère et riche en bonté, en compassion. Nous voulons nous confier en lui. Il est le seul qui puisse intervenir. Et nous voyons dans le deuxième livre des Chroniques, quand la gloire de Dieu est descendue sur le temple qui a été terminé par Salomon, eh bien, la gloire de Dieu est descendue. Et il nous est dit que les sacrificateurs ne pouvaient pas entrer tellement la gloire, elle était grande. Ils ne pouvaient même pas entrer dans le temple. Dieu peut faire des choses qui dépassent notre cœur, notre entendement. Dans le Nouveau Testament, il est dit que Dieu est capable d'aller au-delà même de ce que nous pensons ou de ce que nous imaginons. Dieu est un Dieu de miracles. Et quand nous revenons à notre propre vie, nous apercevons que nous étions dans la boue du péché, nous étions loin de lui, égarés, toutes sortes de choses. Mais à un moment donné, quand Dieu nous a appelés à toucher notre cœur, eh bien, il est celui qui nous a transformés, pardonnés, purifiés. Il a inscrit notre nom dans le livre de vie. Et ça, c'est un miracle, un miracle. Nous étions tellement loin de lui. Et il a fait ce miracle de la nouvelle naissance. Et maintenant, peut-être on s'est égaré aussi, on est loin, mais le Seigneur est capable de nous ramener par son Esprit Tout-Puissant. Il est capable d'intervenir. Que Dieu soit béni, qu'il nous aide les uns et les autres, qu'il m'aide à revenir pleinement à lui, à me confier pleinement en lui. Lui, il est capable, moi je ne peux pas, mais lui, il peut tout. Il peut tout, il a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Et il veut à nouveau manifester sa gloire. Et sa gloire se manifeste par son esprit. Et son esprit se manifeste quand il trouve des cœurs disposés, des cœurs humiliés, repentants. L'esprit de Dieu aime cela et vient. Et à ce moment-là, la gloire de Dieu se manifeste. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons prier le Seigneur et lui demander toute sa grâce. Seigneur, nous sommes devant toi et je suis devant toi. Seigneur, nous avons lu ce verset, tu dis « Quand mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie ». Et c'est vrai, Seigneur, je veux m'humilier encore et encore. Seigneur, j'ai tellement besoin de ta grâce et de ton secours, tellement besoin du secours du Saint-Esprit. Dans ces temps difficiles, Seigneur, nous comptons sur toi, nous comptons sur le secours de ton Esprit, nous comptons sur ta puissance. Seigneur, qui peut changer un cœur si ce n'est l'Éternel? Qui peut changer une vie si c'est Jésus, par son Esprit? Seigneur, nous appelons, Seigneur, ton secours sur ton peuple, sur chacun d'entre nous, sur les familles. Seigneur, nous appelons ton secours sur les enfants, les jeunes, ceux âgés, Seigneur. Nous appelons ton secours, Seigneur, pour ton peuple, Seigneur, afin qu'à nouveau, Seigneur, tu puisses manifester ta gloire, tu puisses manifester ton amour, ta présence. Ah Seigneur, nous t'en prions dans le nom de Jésus. Nous avons tellement, tellement besoin de toi, mais ton besoin ne fait pas défaut, Seigneur. Quand nous crions à toi, tu dis quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le délivre. Seigneur, viens nous aider. Au nom de Jésus, nous voulons voir ta gloire. Au nom de Jésus. Amen.